France Culture.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villene.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Esprit public. Aujourd'hui, 1905-2025, 120 ans de laïcité, bilan d'un principe sous tension. Avec le théologien Jean-François Colosimo, l'historien Jean Bobéro Vincent, l'enseignante Delphine Gérard et l'entrepreneur associatif Taoufik Valipuram. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa.
Mes chers collègues, quand demain nous aurons voté la séparation, la République, par un illogisme choquant, fêtera encore la naissance du Christ, sa résurrection, son ascension au ciel. Je crois que si nous voulons vraiment que la laïcisation ne soit pas un vain mot, nous devons supprimer les jours fériés religieux.
Ce sont des propos scandaleux !
Je ne vous demande que de leur substituer des jours fériés laïcs. De même que l'Église emprunta autrefois au paganisme ses jours fériés, je demande que nous empruntions aujourd'hui à l'Église ses jours de fête. À Noël, nous fêterons le solstice d'hiver, à la Saint-Jean, le solstice d'été, à Pâques, au lieu de célébrer la résurrection miraculeuse d'un mystique nommé Jésus, dont l'existence même est hypothétique, eh bien, nous célébrerons la renaissance de la vie organique.
Un extrait du film « La séparation » de François Hans et la voix de Pierre Santini qui interprète le député socialiste Maurice Allard lors des débats sur la loi de 1905. Près de 100 ans plus tard, le rapport Stasi, du nom du médiateur de la République, chargé d'une réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, est remis au président Chirac. Et toujours ce débat sur les jours fériés. L'ancien député propose de rendre fériés une fête juive et une fête musulmane. Chirac n'en veut pas et la loi de 2004 est votée en mars pour interdire les signes religieux ostensibles à l'école. L'école, temple de la République et de l'apprentissage de la raison, en proie aux tensions avec les religions depuis la loi Ferry de 1882 qui la rend obligatoire et laïque jusqu'au 15 octobre 2020, l'assassinat du professeur Samuel Paty qui avait montré des caricatures de Charlie Hebdo à ses élèves. Une atteinte irrémédiable aux valeurs de la République et à la laïcité, déclare le président de la Cour en condamnant tous les accusés du procès. Mardi 9 décembre, nous célébrons les 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État, qui donna lieu à 10 mois de débat, 48 séances dans l'hémicycle et plus de 1000 pages de compte-rendu. Le principe inscrit dans la Constitution assure la liberté de conscience et le libre exercice des cultes tant qu'ils ne troublent pas l'ordre public, mais la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, comme le précisent les deux premiers articles de la loi de 1905, Concordat d'Alsace-Moselle mis à part. Voilà un sujet hautement inflammable quand il n'est pas inabordable. Le mot laïcité est-il devenu trop brûlant pour être abordé calmement? C'est la question que nous posons ce matin avec nos invités et je les remercie d'avoir accepté le principe de cette émission. Bonjour Jean Bobéro Vincent.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et historien, fondateur du groupe Société, Religion, Laïcité au CNRS et à l'École pratique des hautes études PSL. Votre dernier livre vient de paraître au PUF 1882-1905 ou La laïcité victorieuse. Bonjour Jean-François Colosimo.
Bonjour.
Merci à vous d'être là, éditeur, essayiste, théologien orthodoxe, directeur général des éditions du CERF. Votre dernier livre, Occident, ennemi mondial numéro 1, mais surtout pour notre débat, ce qui est celui qui nous intéresse, la religion française, 1000 ans de laïcité, c'était au CERF en 2019. Bonjour à vous Taoufik Valipuram.
Bonjour.
Merci d'être là, entrepreneur associatif et social, cofondateur de l'association Démocratiser la politique, co-auteur du rapport Tous les mêmes, portrait social de la France politique de 2002 à nos jours. Et bienvenue à vous Delphine Girard.
Bonjour.
Merci d'être là, professeure agrégée de lettres classiques, membre du Conseil des sages de la laïcité, fondatrice et porte-parole de Vigilance Collège-Lycée, présidente de la commission éducation de la LICRA. Et vous avez, vous aussi, fait paraître ce livre, Madame, vous n'avez pas le droit. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès et ça parle notamment de votre témoignage de prof. Vous nous en parlerez. Merci infiniment à tous les quatre d'être là. Alors, je vous propose que nous remontions ensemble à travers le temps, que l'on parte de cet anniversaire, de cette année 1905 si importante pour le principe de laïcité, jusqu'à aujourd'hui et au débat qui nous anime. Alors, peut-être une petite remise contexte avec vous, Jean Bobéreau Vincent, dans ce livre, vous souhaitez qu'on sorte de la vision peut-être parfois un peu caricaturale qu'on a des débats de l'époque entre Émile Combes qui voulait mettre au pas le catholicisme et Aristide Briand qui souhaitait un compromis.
Oui, enfin, plutôt une rupture conciliatrice, c'est-à-dire que effectivement la loi de séparation met fin au régime des cultes reconnus, ou qui était déjà une semi-laïcité, parce que le catholicisme devait partager la légitimité religieuse avec deux cultes protestants et le culte israélite. Donc on était sorti de la situation de l'Ancien Régime. Mais il pouvait avoir deux manières de supprimer ce régime des cultes reconnus. Il pouvait avoir une manière qui oblige plus ou moins le catholicisme à se républicaniser, et c'était l'optique d'Émile Combes. Émile Combes disait qu'il voulait réconcilier le catholicisme et la République, mais pour ce faire, il fallait que de gré ou de force, le catholicisme se républicanise. Et puis, au contraire, Aristide Briand et Ferdinand Buisson, parce que au départ, Ferdinand Buisson est plus connu, ça a été l'adjoint de Jules Ferry au moment de la création de l'école laïque, mais pas obligatoire. C'est l'instruction qui est obligatoire. L'école est publique et laïque, mais la liberté de l'enseignement a toujours existé. Donc Ferdinand Buisson et Aristide Briand, rapporteur de la commission, eux, étaient dans l'optique d'organiser la liberté. Ils ont dit expressément, il ne s'agit pas d'attaquer l'infâme, comme le disait Voltaire, mais il s'agit d'organiser la liberté. Et cette optique, qui au départ était minoritaire, il faut bien le dire, peu à peu a gagné et finalement s'est imposée.
Quand on réécoute, grâce à ce film dont on vient d'entendre un extrait, La Séparation, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube, je vous le recommande, Jean-François Colosimo, on a l'impression d'une tripolarisation, pardonnez-moi pour le mot très à la mode aujourd'hui en politique, mais vous voyez, entre l'abbé Guéraud qui est en soutane et qui s'oppose vraiment fermement à la loi de séparation, Maurice Allard qui est un anticlérical dur, libre penseur, qui veut aller beaucoup plus loin, et une forme de vision en effet conciliatrice d'Aristide Briand qui finalement l'emporte. Est-ce que c'est la bonne lecture à vos yeux ?
Oui, en partie. C'est effectivement la loi 1905 dans laquelle le mot laïcité, d'ailleurs, est complètement absent, hein, il faut quand même le dire. C'est une loi de séparation. Il faut la concevoir comme, petit à petit, une loi qui a été admise comme une séparation à l'amiable, en quelque sorte, comme en cas de divorce, en se posant la question à qui restent les acquis de l'époque matrimoniale. Ben, à la charge de l'État, ce sont toutes les églises construites en 1905, c'est un peu ça, n'est-ce pas ? Mais en fait, ce qui se passe, c'est pas tout à fait ça. Il y a quand même une espèce de fureur religieuse anti-catholique, il faut le dire, tu vois, c'est quand même, il faut revoir l'histoire pour ce qu'elle est, et ne pas se tromper. La Troisième République, elle crée une espèce de religion civile, comme à la mode romaine ou à la mode rousseauiste. On a une église qui est décapitée de ses croix et qui devient un panthéon pour les hommes illustres, les femmes, ça sera plus tard. Désolé.
On n'est toujours pas sur le fronton, rassurez-vous.
Voilà, voilà, les femmes, ça sera plus tard. On est quand même aussi dans une représentation très particulière, très 19e siècle. On fait un catéchisme républicain, on invente un clergé, ces fameux hussards noirs, n'est-ce pas, qui vont en soutane, non, pardon, en blouse, évangéliser, non, instruire les petits paysans, etc. Et en 1920, qu'est-ce qui se passe lorsque finalement la papauté élève Jeanne d'Arc sur les autels, un peu pour se faire pardonner d'avoir été un peu pro-allemande, cette papauté, pendant la guerre de 14-18. Tout de suite, la République réagit en faisant transporter le cœur de Gambetta au Panthéon, n'est-ce pas ? On est dans une débauche religieuse du côté laïque, qui est formidable. Et Monsieur Allard, il faut le savoir, tout de même, Monsieur Allard qui finira par fricoter avec les faisceaux de Georges Valois, c'est-à-dire une organisation fasciste, n'est-ce pas ? Ce qu'il déteste dans le protestantisme et le catholicisme, c'est que ce sont des inventions sémites, alors que lui, il est pour une conception arienne, n'est-ce pas, de la culture. Voilà, il faut quand même savoir donc qu'il y a quand même des enjeux symboliques, qu'on n'est pas simplement entre en quelque sorte des bisounours, je dirais, qui se disputent de savoir ce que c'est que la liberté de conscience. Il y a des représentations civilisationnelles, religieuses, même là où on croirait qu'il n'y en a pas, qui sont énormes.
Delphine Gérard.
Oui, j'ai l'impression qu'on a, on a souvent tendance à oublier à quel point cette loi, qu'on présente souvent comme une loi de conciliation, naît dans un contexte où l'hostilité entre les libres penseurs et, le, et les cléricaux est, est extrêmement forte. Et d'ailleurs, c'est un contexte qui est un peu le miroir inversé d'une autre aujourd'hui. Au XIXe siècle, les laïcs sont à l'offensive dans une France qui est croyante et où l'Église est encore très influente et très puissante. Et le discours libéral de l'époque vise aussi à faire adhérer à cette laïcité la population. Aujourd'hui, on a au contraire des courants religieux qui sont à l'offensive pour introduire la religion dans des espaces d'où elle avait été délogée. Et d'ailleurs, la loi de 2004 à l'école s'emploie précisément à répondre à cette offensive.
Taoufik Valipuram.
Déjà, je trouve cet extrait très éclairant et j'aurais aimé pouvoir l'entendre lorsque j'étais plus jeune. Je pense que ce serait très intéressant de pouvoir le diffuser massivement.
Tous les jeunes qui nous écoutent peuvent écouter ce résumé des débats dans ce film absolument formidable. La séparation sur YouTube, sur la chaîne parlementaire.
Si on veut que des jeunes écoutent, il faudrait plutôt le mettre sur TikTok aujourd'hui.
Bon, alors écoutez, moi je ne suis pas responsable des réseaux sociaux de LCP. En tout cas, on en parle.
Moi, je le ferai en classe.
Mais peut-être en vous écoutant, la première chose qui me vient à l'esprit, en tant que... je m'appelle Taoufik Valipuram, ma mère est d'origine algérienne, mon père est sri-lankais, donc mes parents et mon histoire familiale est marquée par les colonisations, au pluriel. Et en fait, j'en discutais tout à l'heure avec Jean Bobéro-Vincent. Au moment, donc le 19e siècle dont vous parlez, Madame Girard, et ce 20e siècle avec cet avènement de la loi, au moment où en France, on a cette fameuse loi, ce fameux combat entre des anticléricaux et une église catholique qui s'attache à ses privilèges, à ses biens, on a, dans les territoires colonisés, gouvernés par la France, un mouvement quasiment inverse. C'est-à-dire que la colonisation se fait à l'aide des pères blancs qui vont instruire dans certains territoires les populations autochtones, se fait à l'aide de lois qui permettent d'interdire en fait toute contestation politique, et c'est votre collègue Monsieur Luzard qui en parle très bien dans un bouquin qui s'appelle La République et l'Islam, qui raconte comment en fait dans ces territoires-là, on a le seul moyen d'exister politiquement pour les autochtones, c'est de se constituer en association culturelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a probablement, je trouve intéressant qu'on a probablement dans cette séquence historique, peut-être quelque chose qui raconte ce qui va se passer aujourd'hui, un double standard, ou en tout cas une double évolution entre d'un côté une sécularisation à religieuse et de l'autre côté une sécularisation par le contrôle des religions.
D'autant que, me semble-t-il, Jean Bobéro-Vincent, en Algérie, par exemple, la loi de 1905 ne s'applique pas.
Oui, alors, pour reprendre rapidement tout ce qui a été dit, ça rend d'autant plus extraordinaire le fait qu'on a fait une loi de liberté, hein, dans un contexte très conflictuel. Des gens ont eu le courage d'aller contre les opinions dominantes, de transcender ce conflit des deux France qui était très fort. Mais il faut rappeler que l'Église catholique, par exemple, s'était liée aux tentatives de restauration monarchique.
Qu'est-ce que c'est le conflit des deux France ?
Eh bien, le conflit des deux France, c'est le fait que vous avez d'un côté la France séculaire, fille aînée de l'Église catholique, mais on dit même pas catholique, comme s'il y avait qu'une Église dans le monde. Et de l'autre côté, la France issue de la Révolution, mais la Révolution, c'est à la fois 1789 et 1793, donc la Révolution est ambivalente. Bon. Et ce conflit des deux France, il a été accentué paradoxalement par le ralliement. Léon XIII demande aux catholiques de se rallier à la République, mais attention, c'est à la République des honnêtes gens, contre celle des juifs, des protestants et des francs-maçons. Et c'est vrai qu'Allard était antisémite, bon. Mais l'antisémitisme était quand même le fait des nationalistes et des catholiques, et il était très fort. Et dans les adversaires de la loi de 1905, ils se réunissent par exemple au quotidien La Libre Parole, et le quotidien La Libre Parole est un spécialiste de l'antisémitisme. Il titre par exemple en première page « Magnifique réunion anti-juive ». Bon. Et donc dans ce climat très conflictuel, Briand et Jaurès, qui au départ donc, ont une position minoritaire, arrivent à faire passer une loi de liberté. C'est ça qui est quand même extraordinaire, qu'il faut bien voir. Et il faut avoir eu le courage de le faire et d'affronter. Ils ont été traités de socialistes papalins. hein, Briand et Jaurès. C'est un peu comme l'appellation islamo-gauchiste aujourd'hui. Donc, c'est d'autant plus remarquable que cette loi soit une loi de liberté.
Jean-François Colosimo.
Oui, ce qui se passe, en fait, c'est que effectivement, il y a une opposition de ces deux France, puisqu'il y en a une qui est finalement, tout de même, il faut le rappeler, Delphine Gérard l'a dit, qui à cette époque-là est tout de même majoritaire, n'est-ce pas ? Ah, et il y a une autre qui est extrêmement militante et qui, au nom d'une autre religion, religion de l'humanité, religion du progrès, veut la faire changer en quelque sorte de religion. Ces affrontements, comme le dit très bien Jean-Bobreau Vincent, occupent les extrêmes. Et la loi 1905, ça va être la résolution de ça en prenant une espèce de voie moyenne, encore une fois, c'est-à-dire comme on n'arrive pas à vivre ensemble, ben on va se séparer. C'est une loi de séparation, encore une fois, on n'arrive pas à vivre ensemble. Alors pourquoi on n'arrive pas à vivre ensemble ? Parce que pendant très longtemps, peut-être que l'Église s'est voulu l'État, mais pendant quelque temps aussi, l'État s'est voulu comme une Église, n'est-ce pas ? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est ce conflit qu'on va résoudre. Alors juste un mot sur les colonisations. C'est un tableau très complexe. Parce qu'en fait, Gambetta le dit, il dit, bon, la laïcité, c'est pas un produit d'exportation. Pourquoi ? Parce que sans tous les réseaux catholiques, il n'y a pas de francophonie. C'est aussi simple que ça. Tout le réseau de l'éducation francophone, c'est l'Église catholique. C'est pas du tout l'État
français. Et pas de colonisation ?
Hein ?
Et pas de colonisation non plus ?
Et alors le deuxième point, c'est que malgré tout, les gens n'obéissent pas à Gambetta, et le colonisateur, il déteste assez le prêtre. Par exemple, il y a une volonté tout à fait de non-conversion, par exemple, des populations kabyles en Algérie. C'est connu, c'est niet, c'est le colonisateur qui s'y oppose. Il s'y oppose parce qu'il trouve que sinon, c'est, je veux dire, voilà, il refait le match en quelque sorte de l'hexagone dans les colonies. Et ce qui fait que très souvent, il faut le dire tout de même, ça propulse le prêtre du côté des populations dites autochtones ou indigènes. Pourquoi ? Parce qu'il est en opposition avec le colonisateur. Vous voyez, c'est pas simplement de la bonté ou de etc. Mais ce sont des mécanismes de pouvoir aussi qui font que le tableau est quand même très très complexe. Mais pour y revenir très rapidement, en fait, les politiques vont triompher comme les politiques avaient triomphé pendant les guerres de religion. C'est-à-dire, le parti des politiques pendant les guerres de religion, c'est ceux qui disent on arrête et on fait de la politique, on arrête de mêler Dieu et l'absolu, en quelque sorte, à la temporalité. Et c'est ce qui se rejoue en 1905. C'est une vieille histoire. Regardez les guerres de religion, la résolution des guerres de religion, et matchez ça avec 1905, à mon avis, c'est une image beaucoup plus forte que finalement le problème de savoir. Bon, cela dit, Allard était véritablement pour une religion antisémitique, comme il disait, et votre ami Ferdinand Buisson, lui, il était pour une religion séculière, puisqu'il était un grand défenseur, tout en étant extrêmement laïque, de la prière à l'école. Tu vois un peu, quand même, rappelons-nous la confusion de ce tableau.
Ce que je trouve intéressant quand on se replonge dans ces débats, et puis après on va avancer hein, ensemble, hein, pour quand même remonter jusqu'à aujourd'hui, c'est que déjà le mot « offense » semble présent. On entend souvent ça, « m'offense hein, » dans la société d'aujourd'hui. Jules Ferry fait appliquer ses lois à l'école. Le préfet de la Seine, Ferdinand Hérold, en 1880, on est avant donc la loi de 1882, il retire tous les crucifix des écoles, ce préfet. Et Jules Ferry lui dit, non, calmez-vous, le respect des croyances de la minorité ne doit pas prendre un caractère offensant pour la religion du plus grand nombre. C'est dans votre livre que j'ai trouvé cette citation, Jean Bobéro Vincent. Qu'est-ce que ça vous inspire, Delphine Girard, vous qui êtes enseignante agrégée de lettres classiques ?
C'est très intéressant parce que l'offense est un argument qu'on retrouve souvent parmi ceux qui ont soin de ne pas froisser les religions et les religieux. Et surtout, c'est un argument qu'on retrouve souvent chez les élèves qui sont quand même très enclins à une forme de cancel culture aujourd'hui sur l'argument que il faut en aucun cas que les enseignements que nous diffusons puissent offenser les croyances des uns et des autres. Et c'est très intéressant parce que moi je dis souvent à mes élèves, l'ironie est quand même un levier pédagogique assez précieux, que mon Dieu vénéré, que je ne supporterais pas de voir critiquer, c'est Staline. Ou que je crois...
ça doit leur plaire.
Mais bien sûr, ils ne me croient pas. Je crois véritablement au Dieu gréco-romain. Donc ils ne me croient pas, mais ils décèlent mon intention, qui est bien sûr de leur faire comprendre que si l'on prend l'offense comme étalon de ce qu'on peut dire ou ne pas dire, et particulièrement de ce qu'on peut enseigner ou non, nécessairement, le seul dénominateur commun à toutes les communautés religieuses ou autres, c'est le silence. et que nécessairement, rapidement, si l'offense est la règle, alors, enfin, si on doit prévenir de l'offense avant toute chose nos paroles, alors le débat public est mort, parce qu'on ne pourra plus rien se dire. Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, la génération offensée, bon, comme l'a décrit Caroline Fourest, c'est quelque chose qui est très prégnant dans les classes.
Moi, je crois que la violence.
Jean-François Colosimo.
Ouais, je crois que la violence, ça a été un fait de l'État. L'histoire de France, c'est l'histoire d'un État qui refuse la mainmise de la papauté, la mainmise de l'Empire. C'est pas pour faire un royaume. Et dans ce royaume, en fait, c'est l'État qui va faire la loi sur les religions. Et ça a été d'une grande violence. Alors, ne parlons pas des violences par rapport aux protestants. Elles sont connues. La violence à l'égard des juifs, l'émancipation des juifs qui vient très tard, le dernier jour de la Constituante. Hein, on cite toujours Clermont-Tonnerre. Il dit évidemment des mais nous ne traiterons plus les juifs en tant que peuple, mais chacun d'entre eux en tant que citoyen. Et ceux qui sont, et on ne dit jamais la suite, et ceux qui ne sont pas d'accord, on les foutra dehors, n'est-ce pas? Et là, il n'y a pas que des offenses, avec Ferry, et l'inventaire des églises. Il y a des morts.
Bien sûr.
Il y a des morts.
Et Georges Clemenceau, qui est ministre de l'Intérieur et des Cultes le 20 mars 1906, donc pendant l'application, après l'adoption de la loi pour son application, au moment de cette querelle des inventaires, il dit à la Chambre, la question de savoir si l'on comptera ou ne comptera pas des chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine.
Oui. Alors,
Jean Bobéro, Vincent.
Il a gagné à ce
qu'il faut voir.
Mais c'est pour la notion de violence, pour montrer sa continuité.
Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'il y avait toute une campagne de désinformation. Et c'est très intéressant justement d'étudier dans le contexte actuel ce qui s'est passé en 1904 avant et 1905 au moment de la fabrication de la loi. C'est-à-dire que on a fait croire aux gens que l'inventaire allait leur piquer les statues, etc., que c'est la révolution qui recommençait, que c'est 1793 qui recommençait. Or, l'inventaire, c'était justement inventorier ce qu'il y avait dans les églises pour que rien ne soit volé et qu'on puisse le transmettre aux associations culturelles.
Ça se faisait de manière quand même assez agitée.
Mais c'est parce que on collait sur le ponton des églises. On va vous prendre vos objets. On collait sur le ponton des églises que les églises allaient être prises par l'État, etc. C'est-à-dire que il y a eu toute une campagne qui a présenté la loi de 1905.
L'expulsion des couvents, c'est pas ça.
Mais oui, mais justement, la loi de 1905 rompait avec cela.
Non, attendez,
c'est un changement. Mais sur le moment,
on parle pas de ça. On parle de la violence. L'État a toujours exercé une forme de violence en France sur les religions parce qu'il considère que c'est lui qui fait la loi et pas les religions. Et il limite les religions parce que les religions, depuis le Moyen Âge, on le sait, y compris la religion catholique, c'est une capacité de faction, de sécession, c'est une de sédition, n'est-ce pas, au sein du pays. Et donc, les religions sont à la fois exclusives, elles ont la vérité, elles sont inclusives, elles dominent leur population, donc l'État fait un rôle d'émancipation, il revendique d'être premier sur les religions. C'est ça l'histoire de France.
Oui, mais la loi de 1905 rompt avec ça, elle rompt avec le gallicanisme.
Elle accomplit ça.
Non, pas du tout, elle rompt avec ça.
Elle accomplit.
Émile Poulain dit c'est la fin du gallicanisme.
Ça s'est pas fait sans tension, vous le racontez vous-même,
Rimbaud-Béraud-Vincent.
Taoufik Balipuram.
Pour quand même les morts des inventaires, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a 3 morts au moment des inventaires. Tous les historiens disent il y a 2 morts, c'est les catholiques. Et ils oublient le mort républicain. C'est quand même, on a une reconstruction de la chose qui n'est pas conforme à la réalité historique.
Taoufik Balipuram, que vous inspire ces débats? Et après, on va avancer justement de ce moment-là sur les débats qu'on peut avoir aujourd'hui. Et est-ce que, Delphine Gérard, c'est un argument qu'on peut dire à des élèves qui seraient contre la laïcité ou ceux qui ne veulent pas se conformer aux principes républicains, de dire, vous savez, les catholiques en sont passés par là?
Alors, déjà, je voudrais revenir sur quelques termes qui ont été employés. Vous avez employé le terme de cancel culture. Moi, aujourd'hui, en France, en 2025, je ne sais toujours pas ce que c'est que la cancel culture. J'aimerais bien qu'on me démontre, de manière factuelle, ce que c'est que la cancel culture. Par exemple, moi, quand je me balade dans les rues du 5e arrondissement, et que je vois la rue Buffon, ou que je vois la rue Von Linen, vous savez, peut-être qu'on peut le préciser pour les auditeurs et les auditrices, que ce sont des personnes, des biologistes, qui ont théorisé le biologisme racial. Il y a des prix qui portent aujourd'hui le nom de ces personnes. Il y a des ailes du musée de l'histoire, du muséum d'histoire naturelle qui portent ces noms-là. Il y a des rues qui portent ces noms-là. Si vraiment on était dans une ère de la cancel culture, je peux vous dire qu'il y aurait des centaines, des milliers, des millions de personnes qui seraient dans les rues en train de dénoncer, en train de demander à supprimer les noms de ces rues. Et ce serait d'ailleurs pas illégitime. Mais je voudrais revenir sur un deuxième terme, la question de l'offense. Je pense qu'il faut mettre un cadre très précis lorsqu'on parle d'offense. On ne peut pas utiliser ce terme à toutes les sauces et dans n'importe quel contexte. Qu'est-ce qui relève de l'offense légitime? Qu'est-ce qui relève du droit à être offensé ou du devoir d'être offensé? Et à quel moment, en fait, quand on se sent offensé, on est dans une position légitime de réflexion, de réflexivité par rapport à des propos, des concepts, des termes qui ne sont pas neutres, qui sont attaquants.
Ça va peut-être.
Alors voilà, et donc je voulais venir à un point et peut-être faire le lien avec ce que venait de dire Jean-François Colissimo, c'est que moi, ce à quoi j'assiste aujourd'hui, Astrid, pour répondre à votre question, c'est que j'ai l'impression de ma petite quarantaine d'années qui n'a vécu que dans des crises politiques, depuis que je suis né, crise politique sur crise politique, j'ai l'impression qu'on assiste à une rigidification, voire même une radicalisation de concepts qui à la base étaient des concepts émancipateurs. La laïcité, l'universalisme, tout un tas de concepts comme cela qui à la base étaient émancipateurs et aujourd'hui qui sont utilisés, je reprends vos termes, pour pouvoir désigner un ennemi de l'intérieur. Et cet ennemi de l'intérieur, on le fabrique à coup de concepts comme celle culture, on le fabrique à coup de sondages qui démontreraient que des populations immigrées ou musulmanes seraient contre les lois de la République. Je pense qu'il faut quand même vraiment remettre les termes dans des contextes très précis pour pouvoir savoir de quoi on parle.
Delphine Gérard.
Si je peux me permettre, le sondage de l'IFOP, quand même, c'est un sondage qui est sérieux. Alors, on peut critiquer la façon dont il est commenté ou la façon dont il est employé, bien sûr, je l'entends.
Ils sont prioritaires.
Mais c'est un sondage, quand même, dont vous ne remettez pas en question la validité. Si. Je voudrais juste répondre sur la question de la cancel culture. Je ne sais pas si c'est notre sujet.
En fait, je ne sais pas pourquoi on va sur la cancel culture, parce que moi, je voulais savoir si la violence des débats de 1905 dont on vient de parler a, pour vous, des liens avec aujourd'hui.
J'ai l'impression qu'on emploie aujourd'hui un certain nombre de concepts, de termes pour pouvoir éteindre le débat de manière violente vis-à-vis de personnes qui développent une réflexivité, qui écrivent des bouquins, qui posent des théories et qui expriment légitimement une aspiration à pouvoir débattre publiquement de ces questions-là. Et ça, c'est de la violence.
Alors, on est tout à fait d'accord là-dessus. Moi, je suis une laïque, ça veut dire que je n'ai cure des traditions et je considère que tout peut être toujours remis en question et passer au crible de notre réflexion renouvelée. Il n'y a aucun problème à cela. Et vous avez raison, je trouverais tout à fait légitime, par exemple, qu'on débattisse des noms de célèbres négriers dans les rues de Bordeaux. Je ne verrais pas de problème à cela parce que ce n'est pas des gens qui ont apporté quoi que ce soit à la réflexion humaine ou à la culture commune. Ça n'est pas forcément le cas de Monsieur Buffon. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que il me semble que la cancel culture, si on la définit comme l'inclination d'une certaine jeunesse à vouloir effacer de l'histoire des idées toute personnalité qui, à un moment donné, a pu avoir des propos qu'on considère aujourd'hui comme scandaleux et à juste titre. Je rappelle que même Voltaire a pu avoir des propos antisémites. Voilà. Est-ce qu'il faut pour autant effacer Voltaire de la culture? Non, bien sûr. L'inclination de la cancel culture à vouloir refaire l'histoire à l'aune d'une pureté morale telle que c'est fait aujourd'hui, évidemment, c'est à mon avis pas souhaitable pour notre histoire culturelle commune. Maintenant qu'on débatte du fait que certains n'ont rien apporté à l'humanité et qui ne méritent pas nécessairement les honneurs de la République, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était plutôt la démarche qui me semblait importante d'expliquer à nos élèves qui n'ont pas forcément la notion de toutes ces nuances.
D'un mot, Jean-François.
Alors, oui, moi, je vais laisser de côté, avec votre permission, là, et la cancel. Ce qui a changé depuis 1905, c'est le paysage religieux français, qui s'est complètement modifié. Et si on ne prend pas cette modification en compte, on va continuer à pérorer sur 1905 sans recontextualiser...
Vous inquiétez pas, on avance.
Non, non, mais sans recontextualiser 1905 aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que toutes les religions françaises installés en France, connus en France, qui ont eu des statuts peut-être parfois persécutés d'ailleurs, ou minorés, mais toujours est-il, ces religions historiques, elles-mêmes, elles ont changé. Qu'est-ce qui se passe à partir des années 1960? Le rapatriement des Juifs du Maghreb fait que le judaïsme français ashkénaze, qui était en quelque sorte un judaïsme très européen, en fait, j'entends par là, très même européen, un peu Europe centrale, enfin très tenu, très discret, etc., s'enrichit d'une composante plus orientale, plus démonstrative. Ah, dans le monde catholique, il y a l'arrivée des charismatiques, chez qui l'émotion, quand même, supplante en quelque sorte la raison, l'expérience concrète de Dieu, l'émulsion communautaire, la dimension, effectivement, de l'embrasement, de la foi, etc. Là aussi, on avait un catholicisme qui était plutôt très rationnel, très porté sur les études, l'université et le reste. Le protestantisme, luthéro-calviniste, les deux branches que nous connaissions historiquement, elles sont en quelque sorte balayées par ce vent évangélique qui fait qu'aujourd'hui les évangéliques tiennent l'eau du pavé dans le monde protestant, et là encore, ce sont des mondes très 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 différents, n'est-ce pas, hein, avec cet évangélisme, quand même, il y a eu un évangélisme français au 19e, mais que là, celui dont on parle, il est très influencé par les États-Unis. Et puis arrivent des religions nouvelles qui d'un coup deviennent visibles. Alors évidemment, l'islam, c'est une nouveauté, un radical à ce point.
Qui n'était pas reconnu d'ailleurs dans le Concordat avant 1905.
Ouais, et qui se conjugue. Alors, il y a un islam.
Une nouveauté dans le cadre hexagonal.
Dans le cadre hexagonal. Mais, vous savez, la rupture avec l'empire colonial que consacre le général de Gaulle, à mon avis, complètement à raison, c'est une mutation française. La France, elle devient hexagonale. Elle oublie parfois même ses territoires ultramarins. Pour dire combien, ce retrécissement est profond. Et il y a évidemment aussi, attention, les sagesses d'Asie, qui sont bouddhisme, etc., qui sont pas très, finalement, visibles, mais qui existent aussi, et qui parfois, d'ailleurs, s'importent dans la mentalité française. Il n'y a qu'à voir, cette furieuse mode du bouddhisme tibétain, qui est quand même le bouddhisme le plus paradoxal qui soit, et peut-être le moins intéressant, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Mais l'avantage du bouddhisme, c'est qu'il y a un pape, il y a des moines, et il y a des liturgies sans fin dans une langue incompréhensible, c'est peut-être la nostalgie de la pampe latine.
France Culture, l'esprit public, Astrid de Villene.
Vous écoutez France Culture comme tous les dimanches. Merci d'être avec nous pour l'esprit public. Nous sommes toujours en compagnie du sociologue et historien Jean Bobéro, Vincent, du théologien qu'on vient d'entendre, éditeur et auteur Jean-François Colosimo, Taoufik Valipuram, entrepreneur associatif et social, cofondateur de l'association Démocratiser la politique, et Delphine Girard, professeur agrégé de lettres classiques, membre du Conseil des sages de la laïcité. Votre dernier livre, Madame, vous n'avez pas le droit, aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous vouliez réagir d'un mot, allez-y, Delphine Girard, et puis après j'aimerais qu'on écoute le président Chirac en 2003.
Non, je voulais simplement dire que sur la question de l'offense, du respect, de toutes ces notions qui finalement sont au cœur des difficultés que rencontre la laïcité auprès de la jeune génération, auprès des élèves, il y a quelque chose de très important à essayer de transmettre, c'est que le respect que les élèves invoquent toujours, hein, pour protéger les religions ou les élèves pieux, il faut leur expliquer, il faut pas avoir peur d'expliquer que le respect, c'est pas une vertu du silence. C'est une vertu du débat. C'est pas en évitant tout sujet d'offense qu'on respecte l'autre. C'est en respectant en lui sa parcelle de raison critique, sa parcelle de logos universel, de capacité à embrasser pendant un instant une autre façon de voir les choses que celle qu'on lui a transmise. Et je veux dire, il y a beaucoup de condescendance, je trouve, à considérer qu'il faut à tout prix éviter les sujets d'offense, et à considérer qu'il est irrespectueux de s'en prendre aux religions comme si l'autre n'était pas capable de penser tout seul.
Oui, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Simplement, si vous voulez, il faut traiter de la même manière De Gaulle et Mahomet. C'est-à-dire que si on a le droit d'offenser Mahomet, on a le droit d'offenser De Gaulle.
C'est le cas.
Et c'est le cas. Ben oui, mais
Jean-François Colosimo,
c'est pas ce qui se passe.
Enfin,
c'est pas
ce qui se passe. Tout ce qui reste de clan laïcard, Allard, les héritiers... La tripolarisation, les héritiers d'Allard, ils passent leur vie à sauter sur les catholiques.
Ah oui, en se moquant d'eux.
D'ailleurs qu'ils tendent l'autre joue, lorsqu'on les frappe sur une joue, ils tendent l'autre. Je veux dire, on les entend que là-dessus. On a une impression hystérique de remake, mais saumâtre, quoi. Je veux dire qu'on est revenu il y a 150 ans en arrière, avec ces types qui défilent avec des pancarte parce qu'il y a une crèche ici ou là. On est dans une aberration totale. Ouais. En revanche, l'offense, c'est la réintroduction du blasphème dans la loi.
Absolument.
C'est ça le problème.
Absolument.
L'offense, c'est la réintroduction du blasphème.
C'est le tabou.
Nous n'avons pas, il n'y a pas de loi qui condamne le blasphème en France parce que la République, l'État en France, c'est ça la laïcité, il reconnaît qu'il est aveugle théologiquement. Vous pensez, encore une fois, que voilà, Delphine, avec le respect que je vous dois, pense qu'elle est extraterrestre et qu'elle a des antennes. Tant qu'elle ne veut pas greffer des antennes à tout le monde autour d'elle et à ses élèves, ben on la laisse penser qu'elle a des antennes, parce qu'elle ne cause pas de troubles.
On va écouter le président Jacques Chirac le 17 décembre 2003, lors d'un discours devant 400 personnes à l'Élysée.
Les signes discrets, par exemple une croix, une étoile de David ou une main de Fatima, restent naturellement possibles. En revanche, les signes ostensibles, c'est-à-dire ceux dont le port conduit à faire remarquer et reconnaître immédiatement à travers son appartenance religieuse, ne sauraient pas être admis. Cela, le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de manifestement de dimension excessive, n'ont pas leur place dans les enceintes des écoles publiques. L'école publique restera laïque.
Jacques Chirac à l'Élysée, le 17 décembre 2003, on vient de lui remettre le rapport Stasi, du nom de du médiateur de la République, Bernard Stasi, et la loi interdisant les signes religieux ostensibles à l'école sera adoptée le 15 mars suivant pour une application à la rentrée de 2004. Première question, Jean Bobéro, est-ce que je fais bien de passer de 1905 à 2005 et il s'est rien passé entre-temps ?
Si, bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses, et notamment ce que disait Jean-François Colosimo, c'est-à-dire qu'en 1905, on peut encore raisonnablement croire au progrès et une marche en avant de l'humanité. Et puis, il y a les deux guerres mondiales, et puis il y a maintenant toute l'anxiété par rapport à l'environnement, à la diversité, etc. Et cette projection dans l'avenir est beaucoup plus difficile. Et d'où le désir justement d'identité, de pureté, enfin ce que vous avez dit, qui doit être compris parce que la situation a changé. Bon, alors ceci dit, moi j'étais membre de la commission Stasi et j'ai écouté, j'étais parmi ceux qui étaient invités à écouter le discours de Jacques Chirac. Bon, je dirais que dans le discours de Jacques Chirac, il y a une exception à une liberté qui reste une liberté générale. C'est-à-dire que à partir d'une conception où l'école serait le temple de la République, le sanctuaire républicain, etc., dont on peut se demander donc si elle n'a pas des relents para-religieux, on fait une exception. Mais la liberté de porter des signes dans l'espace public et dans d'autres lieux reste générale. Et les choses ont changé avec Nicolas Sarkozy, et notamment le débat sur les mères de famille dans les sorties scolaires, alors que la commission Stasi estimait que non, il n'y avait pas de problème avec ça. Le fait qu'il ait confié la laïcité au Conseil et l'intégration, ce qui signifiait que les franco-français étaient tombés dans la marmite laïcité, tel Obélix quand ils étaient petits, alors que les immigrés, tel Astérix, ils devaient reprendre une potion magique de laïcité périodiquement. Bon, en plus, le Haut Conseil et l'intégration n'était pas compétent. Il a fait un historique de la laïcité française où il y avait 11 erreurs factuelles. Bref, à partir de Nicolas Sarkozy, vraiment les choses ont dévié. Et il y a eu d'ailleurs ce que François Baroin appelait une nouvelle laïcité. Et François Baroin disait clairement que cette nouvelle laïcité pouvait s'opposer aux droits de l'homme. Alors que la laïcité de 1905 est fondée sur les droits de l'homme.
Delphine Gérard ?
Je ne crois pas qu'on puisse tenir François Baroin comme étant le meilleur représentant de la laïcité française. En tout cas, ça n'est pas du tout mon opinion, ça n'est pas celle des laïcs, je crois. La loi de 2004, il faut vraiment la comprendre comme une loi de protection de l'enfance. C'est une loi qui est très particulière et en cela, elle n'est pas aisée à expliquer à nos élèves parce que c'est sans doute la seule loi qui ne vous enjoint pas les mêmes choses lorsque vous êtes mineur et lorsque vous êtes majeur, en tout cas, qui vous octroie des droits à l'extérieur que vous n'avez pas à l'intérieur de l'établissement scolaire. Parce que son objectif, c'est de protéger la conscience en pleine formation de nos élèves. Et le législateur a considéré que, de fait, il y avait un nouvel apport culturel religieux en France qui revenait questionner notre laïcité, qui était l'islam. Et je ne crois pas que ce soit raciste de le dire. Enfin, c'est un peu comme a accusé le présentateur de Météo de l'orage. Il y a un nouveau questionnement qui est fait à la République, avec l'apport culturel de l'islam en plein essor, qui est en plus une religion qui se politise. Et le problème, c'est pas l'islam en France, c'est l'islam politique. C'est-à-dire que si on reprend l'idée selon laquelle la loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne veut pas faire la loi, comme dit Jean Jaurès, c'est nécessairement que si jamais on a une religion qui a des velléités politiques, il faut pouvoir y répondre, et il faut que la République se protège. Et en l'occurrence, la loi 2004 est une loi de protection de l'enfance, c'est-à-dire de la liberté de conscience en pleine formation, individuellement en tout cas, de nos élèves. On considère que leur esprit critique n'est pas encore mature pour vivre au milieu des pressions communautaires ou des pressions religieuses, et qu'à l'école, il doit pouvoir se départir pendant quelques heures par jour de ces déterminismes familiaux, sociaux, religieux, pour se former son propre esprit critique.
En tant qu'enseignante, Delphine Gérard, vous en tirez donc un bon bilan de cette loi qui a 20 ans?
Elle me semble absolument indispensable, parce que faute de quoi vous auriez l'invasion d'un communautarisme et de toutes les pressions, de toutes les problématiques qui vont avec et qui sont extrêmement fortes dans la société. Et c'est si vous voulez, c'est un rempart pour essayer de rendre l'école encore un peu imperméable aux problématiques de la société politique et sociale.
Taoufik Valipuram, quel bilan tirez-vous de cette loi, vous qui, maintenant qu'elle a 20 ans?
Alors, je vais y répondre dans quelques instants. Je voudrais juste ajouter une date, puisque tout à l'heure, vous avez posé la question,
oui, allez-y,
à Jean-Bobo Vincent sur qu'est-ce qu'il s'est passé entre 1905 et 2005. Il y a une date quand même, c'est 1959, avec les lois Debré.
Vous pouvez nous les rappeler?
Je ne suis pas historien, mais en tout cas, qui permet aux établissements privés sous contrat... Principalement catholique.
Pour des raisons historiques.
Pour des raisons historiques, tout à fait, bien sûr.
Mais à tous, à tous les établissements.
De pouvoir garantir.
Parce que les protestants, par exemple, ont joué le jeu de l'école laïque.
Et parce que les protestants ont toujours pensé qu'ils étaient des inventeurs de laïcité et qu'ils l'avaient inventé pour briser le pouvoir des catholiques.
Taoufik Valipuram, vous finissez votre propos, s'il vous plaît.
En fait, pour faire très très vite là-dessus. Mais
non, allez-y, on est dans cette émission.
Encore une fois, parce que. Mais on est en 1959, où cette loi permet à des établissements privés sous contrat, donc catholiques, de pouvoir instiller une dose de...
Oui, le caractère propre. Des crucifix, etc.
Et pour permettre à des enfants et à des familles de pouvoir concilier à la fois l'instruction dans un cadre réglementé et puis à la fois des convictions religieuses. Je fais très 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 vite, parce qu'encore une fois, je ne suis pas historien, je regarde ça d'un œil.
Juste un bémol, c'est au même moment où l'Église s'engage sur la voie de Vatican II.
Oui.
C'est juste avant.
Attendez, il faut qu'on se recentre.
Déjà, ça boue, et c'est une.
On vous a bien entendu, Taoufik.
Qui va s'entendre à la
Valipuram. Pouvez-vous nous dire.
Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important, juste Astrid? Parce que, en fait, lorsqu'on parle de protection de l'enfance, lorsqu'on parle de l'école comme étant un rempart, bon, déjà, moi, je ne suis pas fan de ces métaphores guerrière, rempart, invasion. Je pense que si on veut pouvoir débattre sereinement, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Parce que oui, on n'est pas obligé de se vexer pour ces termes-là. Mais malgré tout, quand on a une responsabilité institutionnelle ou d'influence, on doit faire attention aux mots qu'on emploie si on veut.
Les remparts de l'école, c'est Jean Zay, c'est pas moi. Hein.
Très bien, mais on n'est pas obligé de suivre. On n'est pas obligé de répéter.
Mais
on n'est pas obligé de répéter. En fait, quand je parle de rigidification, on a le droit d'évoluer. En fait, et d'ailleurs, c'est ce que réclament un certain nombre de personnes qui veulent, qui ne sont pas satisfaites de la loi de 1905 parce qu'elles l'estiment trop permissive.
C'est votre cas ?
Pas du tout. Mais je vais pouvoir me positionner, moi, si vous le souhaitez. J'ai aucun problème à me positionner. Ce que je veux dire par là, c'est que, et j'espère qu'on pourra en parler, parce qu'il y a quand même un loup avec l'école privée, et notamment l'école privée sous contrat catholique en France.
Pourquoi un loup ?
Pourquoi un loup ? Parce qu'en fait, bon, déjà, il y a un loup financier. Il y a un loup financier, on se parle quand même d'un coût estimé à peu près entre 9 et 10 milliards d'euros de financement public de l'école privée sous contrat. Pour un budget de l'éducation nationale, je vous regarde des spécialistes ici, qui est de l'ordre de 60 milliards d'euros. Donc on se parle quand même de quelque chose de conséquent.
C'est à part.
C'est à Jean-François Colosi.
Oui, non, mais là, je crois que là, franchement, je pense que c'est... Il faut voir le truc à l'envers. C'est que si l'État devait supprimer l'enseignement catholique aujourd'hui et le remplacer, ça lui coûterait l'argent que l'État n'a pas.
On peut peut-être ne pas le supprimer. On peut peut-être imaginer d'autres créations.
C'est le fruit de l'histoire. Vous avez une contribution catholique à l'éducation, une contribution catholique à la charité et à l'appareil sanitaire, je suis désolé, combien de gens vont dans des hôpitaux ou des cliniques qui s'appellent Sainte-Félicité, Saint-Machin, il y a une histoire, et une part aussi médiatique très importante. Maintenant, il y a aujourd'hui des lycées musulmans qui profitent de cette loi. N'est-ce pas,
Jean Bobéro?
On cherche à les limiter. Justement, les musulmans avaient fait le choix.
D'attention, mais légalement, ils ont accès. Après, s'ils n'arrivent pas à souscrire, il y a un autre problème.
Écoutez, la manière dont.
Un peu des atteintes à la laïcité. Lycée... J'aimerais bien qu'on rentre quand même dans le vif du sujet.
La manière dont le lycée Stanislas et le lycée Averroès ont été traités
à Lille
montre bien que c'est une laïcité à géométrie très, très variable.
C'est vous qui le dites.
D'autre part,
c'est vous qui le dites,
justement,
c'est presque diffamatoire.
À partir du moment où, ce qu'il faut bien voir, c'est par exemple dans la constitution du Japon, il est constitutionnellement interdit de donner de l'argent public aux écoles privées. Et donc, ils sont beaucoup plus laïcs que nous.
Là, je pense que ça ferait ça.
Mais
ça fait un scandale.
Depuis la loi de 2004.
Le nombre de personnes qui mettent leurs enfants dans le privé, en raison sans doute peut-être aussi de l'échec de l'école, je ne sais pas, non ? Allez-y, Taoufik Balikiram.
Si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis 2004, la France respecte la liberté de conscience parce qu'il y a des écoles privées. Sinon, elle ne respecterait pas le droit des parents à élever les enfants selon leurs convictions. Donc c'est paradoxalement l'école privée sous contrat qui permet que la France ne soit pas condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme avec la loi de 2004. Et ça a été expliqué explicitement à la commission Stasi que la France ne serait pas condamnée par la Cour européenne parce qu'il y avait l'école privée sous contrat. Et donc, dans l'école privée sous contrat, il y a des enfants, il y a des prières, il y a des crucifix, il y a des choses comme ça. Et ils sont quand même, après, de bons serviteurs de l'État. Bon, donc, si vous voulez, l'idée de l'école sanctuaire républicain, justement, c'est le stéréotype qui est faux de l'école laïque obligatoire, alors qu'elle n'est pas obligatoire. Bon, si vous voulez, il y a quand même un problème. D'autre part, le problème, c'est pas tellement la loi de 2004 elle-même, c'est la circulaire. Et la circulaire va tout à fait à l'encontre de ce qu'avait décidé la commission Stasi. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est que la loi de 2004 n'obéit pas du tout aux directives de la commission Stasi. Parce que la commission Stasi avait dit il faut vraiment délimiter justement ce qui est interdit et pour que les élèves sachent vraiment ce qui est interdit et ce qui est permis. Que ça soit pas le flou.
En République, Jean Bobéro, une commission ne décide rien du tout. Une commission,
d'accord.
Elle conseille,
bien
et c'est l'État qui décide,
après...
donc il n'y a pas de contradiction.
Non, mais après on a dit que c'est grâce à la commission Stasi que...
Quoi que puisse dire une commission, elle n'a aucun
bien
pouvoir.
Sûr, bon.
Aucun
pouvoir. Mais alors, si vous voulez, le problème, c'est que ce qu'avait dit la commission Stasi était gérable, et ce qu'a décidé après le ministre de l'Éducation nationale n'a pas été gérable.
Pourquoi c'est pas gérable? Parce que justement, quand on regarde les chiffres...
Où on interdisait des signes précis, des signes qu'avait désignés la commission Stasi, ou tout signe qui essaierait de contourner la loi, etc. À partir de ce moment-là, c'était le jeu du chat et de la souris. On ne savait plus ce qui était permis, ce qui était interdit. Et du coup, l'école s'est trouvée, effectivement, à la merci de certains qui ont le problème de l'abaïa, etc. C'est-à-dire qu'elle n'a plus été maîtresse de la situation et elle s'est laissée entraîner. Et l'école, quant institution scolaire, ne s'est pas montrée capable de gérer la situation. Alors que,
Delphine
par
Girard.
Exemple, l'armée, elle, gère beaucoup plus la situation.
Delphine Girard, j'ajoute quand même pour la compréhension de tout le monde, même si on s'en souvient, que l'abaïa a été interdite en 2023 par le Premier ministre Attal.
Oui. Et sans trop de problèmes.
Sans aucun
problème.
Oui, avec un décret.
Sans trop de
mais de manière générale, pardon, excusez-moi, allez-y Delphine. J'ai été coupé tout à l'heure, mais je vous laisse, allez-y, je reprendrai après.
Delphine, d'un mot, et puis de Taoufik Valipram.
Honnêtement, je ne suis pas d'accord avec vous, M. Bovéro, parce que la loi de 2004 me semble tout à fait claire. Elle est tout à fait claire, et surtout, je pense qu'elle ne gagnerait pas du tout à vouloir détailler les vêtements qui seraient licites ou illicites, ou donner à partir de quel centimètre nombre de centimètres, un vêtement serait confessionnel ou non. La loi, elle est très claire. Elle dit deux choses. D'abord, que les signes ostensibles sont proscrits. Ça veut dire que moi, si j'ai un élève qui a une petite croix discrète, je lui demande de la mettre sous son chemisier ou sous son t-shirt. Et c'est pas une difficulté. En revanche, si j'ai un élève qui arrive avec une grosse croix ou évidemment un voile islamique, c'est un problème. Par contre, la deuxième des choses, c'est que elle elle dit clairement qu'il ne faut, et c'est le sens de, la, de ce qu'a fait Gabriel Attal, on ne doit pas pouvoir, en vous regardant, deviner quelle est votre appartenance confessionnelle. Parce qu'on considère qu'on est une communauté scolaire qui est faite d'individus et non pas de groupes ou de communautés différentes. C'est une façon de préserver tout simplement à la fois la concorde et tout simplement la fraternité entre les élèves. Là, on forme une communauté scolaire et on ne veut pas d'autres signes communautaires distinctifs, confessionnels. C'est très clair et honnêtement, ce n'est pas la clarté de la loi qui pose difficulté. C'est d'autres choses.
Oui. Je voudrais réagir très rapidement.
Rapidement, parce qu'après, on va aller écouter Emmanuel Macron et son hommage à Samuel Paty, parce que c'était aussi ça, les atteintes jusqu'à la mort, quand on parle de laïcité à l'école.
Vous posez la question... En fait, pour moi, je trouve que tout ça manque profondément de prise avec ce qu'on pourrait appeler le réel, reste à définir en tout cas, de prise avec la réalité, les réalités que vivent des millions de Français et des millions de musulmans, qu'on ne peut pas définir dans... les musulmans, dans une religion, se politisent. Tout ça est décorrélé. Moi, je veux le dire ici, peut-être que je vais l'exprimer, je ne sais pas ce que ça va faire, mais pourquoi pas. Je suis de confession musulmane. Je n'ai pas... J'ai 40 ans. J'ai grandi dans un quartier populaire avec des personnes de toute confession. Mais j'ai aussi beaucoup d'amis musulmans. La laïcité, la loi de 1905, n'est même pas un sujet de discussion entre nous. Mais même la loi de 2004 n'est même pas un sujet de discussion entre nous. Et quand je dis entre nous, c'est des nous au pluriel, c'est-à-dire il y a différents contextes dans lesquels on discute. C'est pas ça notre problème. Le problème, c'est quelle est la tendance que tout ça prend, jusqu'où ça va s'arrêter, et à quel moment la France va accepter de regarder la big picture, comme on dit en anglais, et de se dire quelle société française voulons-nous pour l'ensemble des Français? Est-ce qu'on est capable de bâtir un universalisme qui appartient à tout le monde et qui appartient à personne, comme le dit Mme Fatou Nyang dans son essai sur l'universalisme, et qui respecte l'ensemble des Français? Aujourd'hui, on n'y est pas. Moi, par exemple, à titre personnel, je suis un libéral. Donc je suis pour que des femmes puissent faire ce qu'elles ont envie de faire, où elles ont envie de faire. Et je vais même aller plus loin, on n'aura pas le temps d'en débattre maintenant, mais je vais jeter un pavé dans la mare. Moi, si, par exemple, je respecte totalement la loi de 1905 et nous sommes des millions à la respecter. On parle d'invasion, on parle de rempart, on parle de violence, mais est-ce que vous avez vu des manifestations massives de musulmans et de musulmanes en France pour contester la loi de 2004, pour contester, là récemment, pas plus tard que la semaine dernière, la volonté d'interdire aux jeunes musulmans de moins de 16 ans de jeûner? Non, je veux dire, tout ça, il n'y a pas de manifestation. Alors, ce qu'on va y répondre... Pardon, je mets des termes dont on n'a pas le temps de discuter, on va dire, c'est de l'entrisme. Mais à quel moment on va me considérer, moi et nous autres, comme des Français à part, pleinement?
Et on parle considère... pas tous les musulmans quand on parle d'entrisme.
Mais quand on dit les musulmans, quand on dit une religion, on essentialise complètement.
Allez-y. D'un mot, Delphine Girard, Jean-François Colosimo, et après on part écouter Emmanuel.
Sur un point important, hein, lorsqu'on parle du rempart de l'école, c'est évidemment pas un rempart contre une religion en particulier, mais attention.
C'est le cas.
Non, pas du tout. Le rempart, alors...
Il faut être honnête.
Non, je vous laisse pas dire ça. Parce que pour le coup, le rempart de la laïcité, c'est le rempart contre les problèmes des hommes, c'est la citation de Jean Zay, c'est qu'il faut pas que les querelles des hommes pénètrent, c'est ça l'idée du rempart, que les querelles des hommes, c'est-à-dire des adultes, pénètrent le rempart de l'école. C'est ça l'image, c'est pas du tout. Ça vise même pas la religion catholique à l'origine et encore moins une autre religion aujourd'hui. Maintenant, que vous disiez, et c'est tout à fait entendable et vrai, que la promesse républicaine qui est pas tenue ou mal tenue auprès des populations immigrées est un
française. Hein,
oui, mais je suis fille d'immigrés,
vous
bien,
savez. Je sais bien.
je suis fille d'immigrés, maçon italien, on est arrivé avec une trouée dans les années 60, on n'avait rien du tout. Donc moi je suis comme vous, je dois tout à l'école républicaine et j'ai le même âge que vous, je suis d'accord, le fait que la promesse républicaine peine à tenir ses engagements auprès des populations nouvellement arrivées en France est une difficulté pour faire accepter notamment notre pensée universaliste et notre laïcité, c'est vrai. Mais vous dites à quel moment on me considère comme un Français à part entière? J'ai envie de dire, eh bien justement, c'est lorsque vous êtes à l'école et que je ne vous considère pas comme un musulman, mais comme un élève, que je vous considère d'abord comme un Français.
Samuel Paty incarnait au fond le professeur dont rêvait Jaurès dans cette lettre aux instituteurs qui vient d'être lue, la fermeté unie à la tendresse. Celui qui montre la grandeur de la pensée, enseigne le respect, donne à voir ce qu'est la civilisation. Celui qui s'était donné pour tâche de faire des républicains. C'était le combat de Samuel Paty.
Emmanuel Macron, lors de l'hommage national au professeur Samuel Paty le 21 octobre 2020, 5 jours après sa mort. Jean Bobéro, est-ce que c'est une date aussi qu'il fallait absolument aborder dans ces 120 ans que nous allons célébrer mardi prochain, le 9 décembre, de la laïcité?
Bien sûr, parce que, si vous voulez, la mort de Samuel Paty, c'est le résultat d'une fausse information amplifiée par les réseaux sociaux. Donc, ça montre bien la difficulté de la situation, hein. Sur le fait que y a des réseaux sociaux qui amplifient la désinformation et qui ont des conséquences terribles, calamiteuses. Bon. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le discours de Ferdinand Buisson que cite Emmanuel Macron est un discours contre le monopole de l'enseignement. Au congrès du Parti radical de 1903, où il a été battu d'ailleurs, donc il se prononce contre le monopole de l'enseignement et justement contre une école laïque obligatoire. Donc, il faut veiller quand même à ne pas instrumentaliser, si vous voulez, les choses. Mais, encore une fois, le meurtre, l'assassinat de Samuel Paty, ça montre la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, où on est envahi par des réseaux sociaux qui diffusent des contre-vérités.
Et aussi parce qu'il avait enseigné la laïcité à l'aide de caricatures de Charlie Hebdo. Je rappelle quand même ce qu'a dit le président de la cour d'assises qui a condamné, bien sûr, tous les accusés du procès Paty, une atteinte irrémédiable, aux valeurs de la République et à la laïcité. C'est une bascule, Jean-François Colosimo ?
Bien entendu que c'est une horreur. Je pense que c'est la même chose d'ailleurs que, rappelons-nous, le père Hamel. Il n'y avait pas eu de prêtre assassiné dans une église depuis 1793. Donc on voit bien qu'on est dans un état de régression. En deux mots, c'est qui est musulman, on peut pas... Musulman, c'est quelqu'un qui pratique une foi, qui est défini par une croyance, par des textes, etc. Aujourd'hui, on appelle musulman tous les gens qui viennent de pays musulmans ou qui ont des racines, etc. Mais moi, je suis portant italien, j'ai pas envie qu'on me dise les catholiques, tu comprends? Et donc, là, on a ethnicisé. Et je pense qu'il faut sortir de ça. Parlons de l'islam pour l'islam.
C'est en raison des attentats que ces amalgames, sans doute, ont été faits, que vous dénonciez à l'instant.
Bien sûr, et quand on parle de tournant, il y a le tournant aussi de 2001, avec les attentats du World Trade Center. Il s'est passé beaucoup de choses au début des années 2000. On est passé d'une décennie 90, que j'ai caricaturé comme étant une décennie joyeuse avec cette fameuse victoire de l'équipe de France, à une décennie 2000-2010, qui est terrible, et encore une fois, qui manque de créativité. Et je voudrais juste réagir, Astrid, en 20 secondes sur la déclaration du président du tribunal. Moi, ça me choque, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, c'est d'abord une atteinte irrémédiable au caractère sacré, j'emploie le mot à dessein, de la vie humaine. Et c'est ça qu'il faut marteler. Une vie humaine est irremplaçable. C'est une personne qui est ôtée de sa famille. Voilà, je voudrais
dire. Gérard, je sais que vous avez écrit ce livre après, et votre engagement laïque après la mort de Samuel Paty, d'un mot.
Oui, bien sûr, parce qu'en réalité, au moment de l'assassinat de Samuel Paty, on a tous compris que c'était l'institution scolaire qui était visée à travers lui. Hein. C'est pas l'homme pour le coup. Et malheureusement, c'est effectivement le terroriste faisait fi de la vie humaine, mais c'était vraiment l'institution scolaire qu'il visait, qu'il voulait museler et qu'il voulait contingenté dans les limites de sa foi fanatique. Donc on est devant quelqu'un qui veut tuer l'école en décapitant un professeur parce que elle est la pouponnière des libres penseurs, parce que elle est le berceau de notre démocratie, et à travers Samuel Paty, c'est tout notre modèle républicain qui a été attaqué.
On doit terminer, donc on va tant pis pour les coups de cœur, on va les oublier cette semaine, j'en suis vraiment confuse. Juste d'un mot, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que aujourd'hui elle est encore victorieuse, cette loi de séparation? Jean Bobéro, d'un mot.
Oui, parce que, si vous voulez, à côté de la laïcité un peu grondante et menaçante, il y a toute une laïcité immergée qui est beaucoup plus conciliatrice, et c'est ça qui permet d'ailleurs le vivre ensemble.
Jean-François Colosimo ?
Non, je suis très pessimiste.
Faudra refaire une émission.
Puisque les pessimistes sont les gens qui, contrairement aux optimistes, pensent qu'on vit dans le meilleur des mondes possible, n'est-ce pas ?
Taoufik Valipuram ?
Je vais être entre les deux, je pense qu'aujourd'hui ça se transforme. Je vois des millions de personnes, encore une fois, qui s'adaptent complètement à nos lois, même lorsque, dans leur fort intérieur, elles ne sont pas d'accord. Et je trouve que c'est une victoire qu'il faut souligner.
Delphine Gérard.
Je ne sais pas si elle est victorieuse, je ne crois pas à la vérité, mais en revanche, elle reste combative.
Merci infiniment à tous les quatre d'être venus. Voyez, on a fait la preuve qu'on peut parler de ces sujets-là de manière apaisée. Merci Jean-François Colosimo, éditeur, essayiste. Votre dernier livre, Occident ennemi mondial numéro 1, Taoufik Valipuram, entrepreneur associatif et social, cofondateur de l'association Démocratiser la politique, et le rapport qui va avec Delphine Girard, professeur agrégé de lettres classiques, Madame, vous n'avez pas le droit, chez Jean-Claude Lattès, et Jean Bobéro, Vincent, pour ce livre qui vient de paraître, au PUF, La laïcité victorieuse 1882-1905. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon dimanche sur France Culture. À dimanche prochain.